Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée dans le cadre, non pas dans un cadre académique, mais dans le cadre d'une ONG, qui s'appelle Urbanistes du Monde, et qui a mené en 2016 une étude comparative sur les smart cities et la ville intelligente dans les villes du Sud. Donc, on est une ONG qui se focalise principalement sur l'urbanisme dans les pays du Sud et qui cherche à créer des liens entre les urbanistes de ces différents pays et à créer des échanges de savoir, de savoir-faire entre les différentes villes. Et c'est dans le cadre du projet annuel qu'on organise chaque année sur un sujet différent qu'on a réalisé en 2016. À l'époque où donc Inkedira, qui est ici présente et qui va parler juste après, mais qui est aussi disponible pour compléter ce que je pourrais dire habituellement, qui a coordonné l'étude avec moi. Donc à ce moment-là, on était coprésidents tous les deux de l'ONG. Et donc on a coordonné à deux cette étude. Donc je vais donner un peu plus de détails sur quoi s'appuie cette étude. Mais simplement, je vais essayer de cadrer un petit peu le contexte de cette présentation et du coup du projet. On était parti du constat qu'il manquait peut-être des travaux sur les villes du Sud et l'apport des villes du Sud vis-à-vis de cette question de la ville intelligente, notamment des savoirs basés sur le terrain, basés sur des enquêtes, qui permettent de voir comment les villes du Sud s'approprient ce concept de Smart City. Donc à l'époque, déjà, on parlait beaucoup, il y avait un engouement très fort pour cette thématique dans les différents acteurs urbains, notamment dans notre environnement, donc parisien, français. Mais une approche qui était donc de plus en plus critiquée, qui était une approche centrée vraiment sur les approches des technologies portées notamment par les géants du numérique, un peu comme ça a été évoqué et critiqué ce matin déjà. L'idée qu'on avait en étudiant les villes du Sud, c'était d'une part de mettre en avant le fait que les villes du Sud sont porteuses d'enjeux et de problématiques spécifiques, notamment liées à la rapidité des processus de développement auxquels elles font face, qu'elles sont relativement peu étudiées, notamment dans la littérature francophone, et qu'elles sont porteuses d'innovations, de pratiques qui peuvent éclairer au-delà de simplement les villes du Sud, mais qui peuvent éventuellement nous éclairer sur ce qui se passe ailleurs. Donc je vais expliquer comment le projet s'est développé. Hein. On était parti sur vraiment un état des lieux sur ce qui se fait, basé sur des enquêtes de terrain. Et petit à petit, on s'est dirigé aussi vers l'idée des travaux qui avaient été faits, essayer d'aller dans une démarche de redéfinition, de questionnement autour de ce concept de Smart City, de ville intelligente, et aussi de proposition de vision alternative à partir de ce qui ressortait du terrain. Donc, la présentation que je voulais faire ce matin est structurée de la manière suivante. Donc, je vais commencer par donner un background un peu général en présentant tout d'abord la manière dont le projet a été mené, donc en fait, un peu la méthode, en fait, notre méthode, même si je rappelle que c'était pas une étude vraiment académique, hein, donc je vais souligner la manière dont on a procédé. Je vais donner quelques éléments sur les résultats qu'on a pu tirer de cette étude comparative, même si ça va être assez bref, parce qu'on a été présenté. Et ensuite, je vais me concentrer principalement sur les résultats d'une réflexion qu'on a menée par la suite. Et qui a donné lieu à une petite publication dans la revue Urbanisme, et dans laquelle on cherchait justement à redéfinir la notion de ville intelligente à partir des villes du Sud. Et donc je vais essayer de montrer les perspectives qu'on a ouvertes sur cette thématique-là. Donc alors, simplement pour vous expliquer comment on a procédé, donc comme je disais, l'ONG Urbaniste du Monde fonctionne en fait en organisant chaque année un forum pour lequel il soutient essentiellement des étudiants, parfois des jeunes professionnels, qui vont passer en général un mois à faire du terrain dans une ville du Sud et qui proposent des projets. Nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des partenaires pour donner un soutien financier partiel, hein, relatif, pour leur permettre de mener à bien ce projet. Donc cette année, on avait eu un certain nombre de financements, notamment d'ailleurs, on a eu un financement de la part, grâce à François Ménard qui était là ce matin, de la part du PUCA, on a eu des financements de la Caisse des dépôts, mais aussi de certains opérateurs spécifiquement intéressés sur la Smart City. Enfin, je pense que c'est quand même un élément en termes de méthodologie qui est un peu intéressant de souligner, notamment de Orange, de la SNCF, et aussi de l'Association internationale des maires francophones. Donc, c'est une remarque un peu de détail, mais qui révèle le fait que c'était un contexte dans lequel cette thématique de la Smart City attirait beaucoup d'intérêt, notamment d'opérateurs et d'acteurs qui voulaient avoir des éléments concrets sur ce qui se passait. Donc il y a eu 14 rapports qui ont été produits sur 13 villes, parce qu'il y a deux villes qui ont été l'objet de deux rapports différents. On avait aussi, c'était à chaque fois des sujets un peu différents, alors je vais montrer les différentes études qu'on avait. C'était à chaque fois des sujets un peu différents, mais on avait aussi une grille comparative qui nous permettait un peu d'essayer de récolter des données et des éléments comparatifs sur les impacts du numérique, sur la pénétration des pratiques numériques, sur les impacts que ça peut avoir à la fois sur la mobilité, sur le développement durable, sur le développement urbain, etc. Donc ça, c'est les différentes villes. Donc on essayait d'avoir une certaine répartition géographique et puis ensuite après un choix en fonction des projets individuels. Alors juste pour finir sur les différentes étapes de notre étude, donc les enquêtes ont eu lieu pendant l'été de 2016 et ensuite ont été présentées, donc on devait lire des rapports et ont été présentées en octobre 2016. Ensuite, par la suite, on est parti d'un certain nombre d'études de cas qui avaient été proposées dans le cadre de cette étude, et on a essayé de pousser la réflexion, non pas en prenant comme ce qui a été un peu présenté aussi dans les études de ce matin, dans une approche. Enfin, on n'était vraiment pas dans une perspective vraiment purement académique, on était aussi dans une perspective d'essayer d'ouvrir des perspectives nouvelles une redéfinition de la ville intelligente. Et en fait, ce qu'on essayait de faire, c'était de partir de ce que les étudiants avaient écouté, entendu de la part des acteurs de terrain, et d'essayer de voir comment est-ce que des approches alternatives pouvaient émerger. C'est ce qu'on a essayé ensuite de proposer c'est une section à l'intérieur d'un dossier dans l'organisme qui d'ailleurs contient un certain nombre de contributions de personnes qui sont intervenues ce matin, notamment dans Antoine Coin, François Ménard. Alors, je voulais donner quelques éléments sur les résultats qu'on a pu avoir. Alors, c'est forcément pas exhaustif et un petit peu arbitraire, les choix que j'ai fait en termes d'éléments à mettre en exergue. L'idée étant que l'objectif était ensuite de me focaliser sur la question de la redéfinition du concept, donc je donne seulement un certain nombre de points. On avait posé des questions. C'est pas assez grand. Je sais pas si je peux zoomer, donc désolé. On avait demandé de remplir des grilles, notamment sur la question des équipements. Et ce qui ressortait, c'était que il y avait un fort développement des pratiques d'Internet mobile qui faisait contraste avec le fait que l'Internet à travers l'ordinateur n'était pas forcément aussi développé. Donc, le mobile permettait un accès à Internet très important parfois, mais avec quand même souvent des limites assez importantes. Et on avait notamment certains cas qui relevaient une pénétration assez faible de l'Internet, notamment donc, dans le cas de l'Argentine, on avait 19% seulement de pénétration de l'Internet. L'étude sur les cas montrait qu'en termes de pratiques régulières de l'Internet, on n'avait que 4% dans la province du Cap. Et il y avait d'autres, enfin, voilà, ça c'est deux chiffres que je sors, mais il y avait beaucoup de cas qui montraient que la diffusion des pratiques numérique était encore très limitée et qu'elle était aussi souvent très inégale, que ça donnait lieu à des fortes inégalités du point de vue spatial à l'intérieur de la ville, notamment dans le cadre de certains quartiers défavorisés, et également social. Notamment, bien sûr, un peu comme ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les villes du Nord, les populations plus âgées et autres types de publics, notamment plus pauvres, qui sont exclus du numérique et qui sont de ce fait davantage exclus de par le développement et le déploiement de pratiques urbaines qui s'appuient sur le numérique. Un autre élément, donc, c'était lié aux spécificités auxquelles peuvent faire face les villes en question, donc les villes du Sud qui ont été le cas d'étude. On n'est pas dans une représentativité, mais on a un certain nombre d'éléments qui ressortent. Donc, par exemple, le fait que l'insuffisante pénétration du numérique et de l'Internet dans un certain nombre de villes pouvait entraîner dans certains cas, le fait de devoir faire appel à d'autres méthodes pour récolter des données qui puissent ensuite être traitées. Donc, par exemple, on avait le cas qui avait été mentionné d'une application qui servait à renseigner, un peu comme ce que peut faire Waze, qu'on a présenté ce matin, de renseigner l'état du trafic en temps réel, et qui, ne pouvant pas s'appuyer sur les données fournies par des utilisateurs, s'appuyait sur des personnes qui, de manière rémunérée, fournissaient des données sur l'état du trafic. C'était un peu une contrainte liée au fait qu'il n'y avait pas assez de personnes pour pouvoir fournir ces données-là. Alors, un autre élément que je voulais mettre en évidence aussi, c'était le fait que certains problèmes particuliers de certaines villes rendaient des solutions technologiques particulièrement utiles, donc notamment dans le cas de Guayaquil et du Cap, le problème de sécurité auquel faisaient face ces villes était mis en avant par les personnes qui ont fait des études sur ces villes, rendaient notamment les systèmes de paiement sécurisés dans les transports en commun particulièrement pertinents du fait de la peur que pouvaient avoir certains usagers de ces transports d'utiliser de l'argent liquide notamment dans le paiement de ces transports. Alors ensuite, de manière générale, il y avait aussi des éléments un peu critiques sur ce qui ressortait de ces projets de Smart City dans les villes du Sud. Notamment, de manière assez générale, on voyait qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui faisaient beaucoup parler d'eux dans les médias, mais qui ne donnaient pas forcément lieu à des véritables transformations et qui étaient des gadgets et qui souvent finissaient par s'adresser principalement à des populations aisées. Donc, notamment, par exemple, on avait l'exemple d'une application pour la collecte d'ordures à Tunis qui en réalité était utilisée principalement dans les quartiers aisés. Mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui ont été cités dans les villes étudiées d'applications qui étaient assez peu déployées, assez peu déployées de manière dans l'ensemble de la population. Et enfin, certains éléments qui laissaient entrevoir des risques que ces applications, que ces nouveaux usages numériques puissent avoir aussi des éléments négatifs de contrôle des populations. Donc, notamment, on avait un système à Hangzhou, donc en Chine, qui est la ville de naissance de Alibaba, qui est une ville qui était une des villes qui apparaissait comme très novatrice vis-à-vis du développement de la Smart City par rapport aux différents cas étudiés, mais qui en même temps laissait entrevoir des choses un peu effrayantes, notamment des systèmes de délation pour les parkings pour les conducteurs qui se garderaient mal, enfin, voilà, ce genre de choses, et bien d'autres en fait qui a été évoqué de logique de vraiment de contrôle qui était permise par des systèmes supposés smart et intelligents. Donc voilà, bon, quelques éléments peut-être que qu'on pourrait compléter, hein, peut-être que l'une des éléments, ouais, peut-être par la suite, ça serait plus utile. Alors, je voulais quand même donc maintenant passer au travail qu'on a voulu mener dans le cadre de ce dossier pour la revue Urbanisme et qui cherchait à partir de ces études de cas, mais à pas forcément faire une étude vraiment. Ce qui aurait pu être fait, c'est une étude vraiment en approfondissant la dimension critique sur les différents cas et d'essayer d'approfondir la dimension critique. Alors, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on avait aussi un espace assez limité, c'est en fait d'essayer de se focaliser davantage sur comment est-ce qu'à travers les enquêtes de terrain, on pouvait au contraire faire ressortir des idées qui pouvaient être utiles pour redéfinir la ville intelligente. Et en fait, à peu près au même moment, il y a ce travail qui a été publié et qui, je pense, a été quand même assez utile pour éclairer un peu les travaux qu'on était en train d'essayer de faire, et donc sur lesquels on avait un peu échangé avec lui quand on était en train de mettre en place ce dossier. Et donc, il y a le travail de Colin McFarland, McFarland et Ola Söderström, qui parle d'un urbanisme intelligent alternatif, et qui propose de passer d'une approche centrée sur la technologie à une approche centrée sur les savoirs. Donc il faut un état des lieux des différentes critiques qu'on pouvait retrouver d'ailleurs nous dans les différentes études de cas qu'on a pu voir, donc, notamment l'insuffisante prise en compte des effets négatifs des technologies, le retour aux utopies modernistes du XXe siècle, la discrimination contre les populations connectées, une gouvernance technocratique, le déploiement de réseaux de technologies coûteux mais relevant au second plan des enjeux importants urgents, et le labelling smart d'un urbanisme néolibéral dont les défauts et les problèmes ont été d'ailleurs montrés auparavant, des régimes d'exception, des expulsions de populations, donc voilà, des éléments en fait finalement qu'on retrouve mais qui préexistent bien sûr la smart city. Donc l'intérêt de cet article, c'est aussi de pointer vers une approche alternative en disant que donc, cet urbanisme intelligent redéfini serait ancré dans les territoires, dans les villes réelles, avec leurs populations, leurs ressources et leurs problèmes spécifiques, plutôt que de commencer avec la technologie. Donc l'idée principale, c'est de commencer par les problèmes urbains qui se posent et qui ne donnent pas forcément lieu à des données exploitables, plutôt que de commencer par ce qui est interprétable par la technologie, mais sachant que c'est quand même une approche qui prend en compte également les possibilités de nouvelles technologies. C'est pas une approche qui est forcément technophobe, mais une approche qui cherche à prendre dans un second temps la dimension technologique. Et ensuite, un autre élément qui est important, c'est d'embrasser les différentes formes de savoir, à la fois produites par les citoyens et puis par les différents acteurs de la ville et qui peuvent donc contribuer à cet urbanisme intelligent et alternatif. Donc je pense que même si on n'était pas dans une perspective académique pure, c'est une approche qui, à mon avis, éclaire les apports de ce numéro qu'on a proposé. Donc pour résumer l'idée, donc on s'est focalisé non plus sur les 13 études de cas, mais sur un nombre plus limité de villes, notamment pour des raisons de l'espace qu'on avait pour la publication. Donc Casablanca, Douala, Le Cap, Medellín, Hanoï et Rio. Et en fait, ce qu'on retrouve dans la plupart des articles, c'est à la fois un rappel de la version officielle de la Smart City dans les différentes villes proposées, et souvent une critique, et ensuite une mise en exergue d'initiatives qui émergent et qui sont parfois assez éloignées de ce qu'on envisage initialement comme étant la Smart City ou la ville intelligente de manière générale. Donc on a identifié dans les différentes propositions trois axes qui nous permettent de synthétiser un petit peu ces différentes études de cas. Donc premièrement, la ville intelligente qui cherche à faire face au problème, à un des problèmes majeurs que se posent ces villes, qui sont un problème de justice spatiale, un problème de fragmentation, de logique de centre-périphérie, en fait accentué par le numérique. Le deuxième axe qu'on avait identifié, c'était la mise en avant d'autres formes d'intelligence, non pas fondées sur l'intelligence des automates et des machines, mais plutôt fondées sur l'intelligence humaine, sur l'imagination, sur l'imaginaire des acteurs urbains et des citoyens, et qui peut être, dans cet urbanisme intelligent alternatif, mis au centre de cette nouvelle approche. Et enfin, la mise en avant de, à travers les nouvelles technologies, en tout cas facilitées ou rendues possibles à travers les technologies, de nouvelles formes de participation et d'échange entre villes.